est une rediffusion.
RFI, grand reportage.
Au cœur de la forêt de Bourgogne, le chantier du château fort de Guédelon nous ramène au XIIIe siècle. Depuis maintenant 21 ans, des artisans œuvrent avec les techniques et les gestes employés sous le règne de Philippe Auguste. Ouvert au public, le chantier reste à ce jour une expérience unique au monde. Le château de Guédelon, authentique château médiéval du XXIe siècle, un grand reportage de Patricia Lecomte.
Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Guédelon. Moi, je m'appelle Didier, on va donc faire une visite guidée ensemble. Je vais essayer de vous donner le maximum de clés possibles qui vous permettront, après la visite guidée, d'aborder le chantier dans des meilleures conditions. Le principe est simple, à Guédelon, il y a un château au milieu, un chantier autour. Donc le château, évidemment, est en construction, il n'est pas fini. Et la première pierre de château a été posée il y a 22 ans.
En tenue d'époque, ces bâtisseurs du XXIe siècle offrent un voyage dans le temps. Soucieux de perpétuer les traditions d'autrefois, ils reproduisent à l'identique les techniques et les gestes ancestraux du Moyen-Âge pour construire un château fort.
Aline, mon métier, c'est tailleur de pierre. Ça, c'est un calcaire marbrier que Toundra, mon collègue, est en train de terminer. C'est une marche d'escalier en vis. Et donc, voilà, qui va être posé dans une des petites tours de la porte d'entrée. Et on retrouve cet escalier dans la tour de la chapelle. Et donc, il faut à peu près 3 jours pour tailler une pierre comme celle-ci, qui fait à peu près 120 kilos terminés.
Parmi les initiateurs de l'aventure, Marilyn Martin, présidente directrice générale de Guédelon, elle raconte comment est née l'idée de construire ce château médiéval.
On avait rendez-vous entre copains avec le propriétaire du château de Saint-Fargeau et 2 spécialistes des châteaux, des castellologues. Ils nous rendaient une étude sur le Saint-Fargeau, le château d'Anne-Marie de Montpensier, la cousine de Louis XIV, et c'est un château de briques. Et quand on soulève intellectuellement ce château de briques, on a un château du XIIIe siècle. Et là, en cœur, on se dit si on reconstruisait le Saint-Fargeau englouti. On a trouvé un terrain, l'argent pour démarrer cette aventure. Et voilà, le dossier était bouclé en 6 mois et on ouvrait un an après au public.
Florian Renucci est présent depuis le début. Ancien universitaire, il est le maître d'œuvre du chantier. C'est lui qui supervise et veille à ce que Guédelon soit construit au plus près de la réalité historique. Depuis la pose de la première pierre, 21 ans se sont écoulés. Aujourd'hui, le château possède ses 4 tours d'angle, dont une tour maîtresse, la tour de la chapelle et 2 tours de défense qui encadrent la porte d'entrée. La centaine de bâtisseurs façonne la demeure du seigneur de Guédelon. Un personnage imaginaire pour un château bien réel, Florian Renucci.
On fait démarrer le chantier en 1229, sur à peu près 25-30 ans. Donc on est au début du règne de Louis IX. Et il y a 3 vraisemblances qui nous permettent de construire. 1, ce critère de temps. Donc on est à une époque où le grand-père de Louis IX, Philippe Auguste, a standardisé l'architecture et donc on respecte à Guédelon les standards de cette architecture qui démarre avec le Louvre à Paris dans les années 1200. Qui construit, c'est un petit seigneur de Puisée, un vassal de Jean de Toussy, donc on ne va pas avoir de la pierre de taille partout, au contraire, on va avoir une économie de chantier. Puis 3, du coup, on construit le château qui aurait pu être construit ici, en Puisée, en utilisant les matériaux du site, par un petit seigneur.
Restait à trouver le lieu, ce sera la forêt de chêne de Guédelon au cœur d'une ancienne carrière de grès.
Ici, dans cette forêt, on est dans la forêt de Guédelon, c'est parce qu'il y a presque tout ce qu'il faut pour construire un château. Dans cette forêt, en fait, les premières personnes, les premiers ouvriers qui sont arrivés ici ont redécouvert dans cette forêt une ancienne carrière de pierre. Et déjà la pierre, c'est du grès ferrugineux. Il devrait y avoir de quoi construire 3 ou 4 châteaux. Donc au moins un, ça va être possible. Mais il n'y a pas que de la pierre, il y a de l'eau aussi, c'était indispensable, c'était vital. Il y a de l'eau qui coule sous le château à 5-6 mètres. Il y a de l'eau, il y a aujourd'hui un puits dans la cour, un puits et des citernes de récupération d'eau dans les 2 tours arrière, on verra tout à l'heure. On pourra également se servir des arbres de la forêt. Ici, c'est du chêne et dans le château, toute pièce définitive en bois, c'est du chêne. Il n'y a pas de question à se poser, vous ne pouvez pas vous tromper.
Comme l'explique ce guide, Guédelon, c'est la transformation d'un écosystème. Le château est construit à partir de ce que la nature offre sur le site. Ne recourir à rien d'autre que ce qui est autour de soi donne le sens du projet. Marilyn Martin.
L'idée même du projet, c'était de construire pour comprendre. C'était de se mettre en situation de construction, trouver un espace naturel qui nous permettent de récupérer, de transformer les matériaux à l'état pur, le bois, la pierre, le sable, les argiles, etc. Et puis, d'un autre côté, c'est une aventure humaine forte. Ces hommes, avec leurs mains, leur savoir-faire, qu'allaient transformer la nature en matériaux et en châteaux. Et donc, on part des premières fondations. Alors là, vous savez, les fondations, c'est des murs qui font 3,50 m d'épaisseur, 3 mètres de haut et qui font 200 mètres de périmètre. Donc là, c'était déjà une aventure où je me suis dit, je me demande si c'est très raisonnable d'emmener les gens dans cette aventure, c'est-à-dire casser de la pierre, monter des murs, assembler des murs énormes. Et c'est les gars, dès qu'on était arrivé à plus de la moitié des murs, qui me disaient « Mais non, mais t'inquiète pas, après il y aura des voûtes à croisées d'ogives, il y aura des voûtes d'arêtes, il y aura des complexités. On savait bien qu'on passerait par là, alors ne t'inquiète pas, on va y arriver. »
Rien ne se perd, tout se transforme. Et chaque atelier est la transformation d'un gisement. Florian Renucci.
La pierre, l'ocre, la glaise, donc une espèce d'argile de surface qu'on va transformer et ce sera la tuilerie. On fait des tuiles, des carreaux de pavement. Et on fait aussi, à partir de l'argile du site, des pots. Cette année, on a une petière qui nous fait une vaisselle rustique correspondant à l'époque du château.
C'est l'occasion pour les ouvriers d'exercer leur métier autrement. Aline taille la pierre de Guédelon depuis 6 ans et, fait rarissime, elle choisit elle-même la matière première.
Le poste de taille de pierre consiste et à l'extraction avec Alexandre Le Carrier. On passe aussi en carrière à extraire tout le grès. C'est une grosse majorité du château qui est extraite sur place. Et puis ici, on taille aussi un calcaire marbrillé, donc un calcaire dur, pour faire toutes les parties ostentatoires du château.
Alors ça veut dire que quand on est dans la carrière, on choisit une veine, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on
c'est
fait?
C'est ça, il faut bien lire la pierre, il faut bien la connaître. Il faut aussi connaître les besoins du chantier. Ça va des dalles à des grosses pierres de taille pour faire les rangs de réalignement ou toutes les pierres d'angle qu'on peut avoir besoin pour le château. Donc il faut bien connaître la pierre, ainsi que le calcaire qu'on utilise aussi aujourd'hui. Donc voilà.
Pour construire l'édifice, il faut des matériaux, mais également des outils. À Guédelon, pas question de se fournir auprès d'un fabricant. Ici, on les confectionne comme le faisaient les bâtisseurs du Moyen-Âge. C'est le travail de Dimitri le forgeron.
Je suis en train de faire une lame pour un petit couteau. C'est pas ce qu'on fait le plus, mais de temps en temps, on nous demande de faire des petits produits pour la boutique, comme on a un site touristique. Et ça arrive aussi qu'on en fasse pour les collègues du chantier. Nous, notre tâche la plus importante, c'est la taillanderie, donc la forge d'outils taillants, principalement pour les métiers de la pierre, donc les tailleurs de pierre, les carriers et les maçons. En fait, la pierre qu'on a ici sur le site, elle est très abrasive et du coup, les outils s'émoussent très rapidement. Donc, un outil neuf, une fois qu'on l'a forgé, il va repasser à la forge peut-être une quinzaine, une vingtaine de fois tout au long de sa vie. À force de le reprendre, il va raccourcir. Donc ensuite, on pourra reprendre cet outil pour en faire un nouveau qui aura une autre destination. Et ensuite, ça va être de la ferronnerie et de la clouterie pour les portes du château, les fenêtres, toutes les ouvertures. On a la chance d'avoir du minerai de fer par endroit dans la carrière. On a des petits gisements. Et du coup, une fois par an, on essaye de faire le travail du ferron, donc qui est chargé de récupérer du minerai de fer et de le préparer, de le faire chauffer aux alentours de 1300 degrés pour obtenir une masse spongieuse d'acier. Et ensuite, cette masse, il faut l'affiner à température de soudure pour faire des lopins, des barres de fer ou d'acier qui seront utilisées par les forgerons.
Fabriquer des outils manuellement est devenu exceptionnel. Dimitri était très motivé pour rejoindre les ouvriers du château car il voulait travailler à l'ancienne.
Il n'y a plus beaucoup de formations pour être forgeron d'outils et moi c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc j'ai passé un CAP de ferronnier d'art pour avoir un diplôme dans le domaine de la forge. Mais après mon objectif c'était de venir ici pour me former un peu par moi-même et en échangeant avec les collègues. Le gros avantage qu'on a ici, c'est que nos outils sont utilisés dans la foulée. Donc si ça va, on ne le sait pas forcément tout de suite, mais si ça ne va pas, on le sait très rapidement.
Sur le site, une douzaine de métiers sont présents. Tailleur de pierre, bûcheron, charpentier, forgeron, tuilier, maçon, cordier, charretier. Répartis en plusieurs ateliers dans le parc, autour du château en construction, ils fabriquent et bâtissent sous les yeux du public. Chaque atelier est l'occasion pour les visiteurs d'assister au travail des artisans, de leur poser des questions, mais aussi d'essayer de reproduire les gestes. Il y a du monde à l'atelier corderie, où l'on apprend les mesures du Moyen-Âge.
Donc on va faire une corde à 16 brins, donc 4 brins par crochet. En premier, on va tourner pour serrer et tendre les brins, que mademoiselle va faire. Donc tu tournes comme tout à l'heure, par là, vers la forêt. Et quand ce sera bien tendu, elle va ramener le chariot vers elle, en fait. Jusqu'à une distance d'un empan. Un empan, c'est ça. Je chez vous, ce serait 20 cm. Mais nous, comme on ne parle pas en centimètres, donc c'est un empan. Ah non, la paume, c'est ça, monsieur. Nous, on va mesurer en pouces, en paume, en palme, en empan, en pied, en coudé et en toise. C'est ça les mesures du Moyen-Âge. Voilà.
Et l'empan correspond à quelque chose de précis pour le corps humain ?
C'est entre le pouce et le petit doigt écarté, monsieur. On va utiliser une seule personne, on va utiliser le commanditaire des travaux. D'ailleurs, c'est lui qui paye.
Curieux, les visiteurs veulent savoir d'où viennent les matériaux, comment ils sont transportés et par quels moyens les charges sont soulevées. Et comme on est au Moyen-Âge, il n'y a pas de camion. Florian Rinucci.
Tous les transports de matériaux qu'on fait sur le site se font avec des chevaux de trait. Hein.
Et pour soulever les charges, pas de grue, mais un moyen archaïque.
C'est la grue de l'époque, elle est à deux tambours, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui doivent marcher, chacun dans chaque roue, et ça entraîne effectivement une corde qui, par des jeux de poulies, permet de lever les charges. Et comme l'ensemble des deux roues du mât est sur un pivot articulé et va pouvoir poser les matériaux à l'endroit voulu.
Alors attendez là, j'ai bien compris, il y a des ouvriers qui vont courir dans la roue comme les écureuils le font ou les souris ?
Alors ils ne courent pas, c'est une marche normale, mais il faut savoir que deux personnes de corpulence moyenne lèvent à chaque levée à peu près 500 kg, qui est la charge utile. On peut aller jusqu'à 6, 7 ou 800 kg avec cet outil. C'est assez extraordinaire, il faut savoir que les cathédrales, tout le patrimoine médiéval, a pu être érigé sur des hauteurs absolument énormes avec ce type d'engin et il en reste conservé dans les charpentes de certaines cathédrales. Je pense à Soissons, je pense aussi à Strasbourg.
Même si c'est un projet fou, il n'en demeure pas moins sérieux. Marilyn Martin s'est entourée d'un comité scientifique composé de 4 personnes, une archéologue, un historien de l'art spécialiste des fortifications, un castellologue et un chercheur spécialisé dans les charpentes médiévales. Viennent s'ajouter des scientifiques spécialisés dans des domaines précis.
Il fallait qu'à côté de cette bande d'allumés qu'allait construire un château fort, on puisse avoir des gens sérieux. Nous, on part du principe qu'on a des questions quand on construit. C'est là que notre comité scientifique intervient. C'est un échange très très riche. C'est-à-dire qu'on est devenu une solution pour eux de comprendre comment on pouvait construire, puisqu'ils interviennent sur des élévations ou des murs qui existent depuis le Moyen-Âge. Et puis nous, on est vraiment dans quelque chose de contemporain. On monte ces murs, donc en croisant les murs qu'on monte et les murs qu'on étudie, les castellologues, les archéologues peuvent tirer des conclusions. C'est là que l'affaire devient intéressante et que l'affaire devient vraiment une vraie médiation, un vrai échange scientifique.
Quand Marilyn Martin a contacté l'archéologue et maître de conférence à Lyon 2, Anne Baude, pour lui proposer d'entrer au comité scientifique, elle a immédiatement accepté l'aventure. Elle voit Guédelon comme un chantier d'archéologie expérimentale qui lui permet de faire le pont entre la théorie et la pratique.
C'est exactement ça, Guédelon. C'est de passer de la théorie, alors théorie... Oui et non, parce que quand on étudie un mur, quand on étudie un bâtiment, quand même on l'approche de près ce bâtiment-là. Donc on recueille des informations importantes sur les techniques, sur la mise en œuvre, sur le choix des matériaux, voilà. Mais il nous manque quand même toute la part opérationnelle, c'est-à-dire comment on construit, en combien de temps, pourquoi on fait ça et pas ça. Voilà. Et effectivement, Guédelon va nous apporter une série de réponses. Alors c'est dans les deux sens, on peut donner des informations de ce qu'on a observé sur l'architecture, par exemple, du XIIIe siècle, puisqu'on est à Guédelon, un château du XIIIe. Et puis, Guédelon va nous renvoyer des informations faites sur la façon de faire, sur la mise en œuvre. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est plutôt Guédelon qui donne des leçons, si vous voulez, aux chercheurs, entre guillemets, parce que j'aime pas tellement ce terme, et qui vont nous dire, non, mais en fait, on fait ça parce que, par exemple, les fours à chaux, voilà, ça dure tant de ça, on peut utiliser la chaux à partir de telle période, alors que dans les articles, on va dire, il faut laisser reposer la chaux pendant 3 mois, non, c'est pas forcément nécessaire. Vous voyez, c'est toute la théorie d'un côté, et puis ensuite, l'expérimental, le vécu de l'autre.
Cela fait 21 ans que le château est en construction. C'est deux fois plus long qu'au Moyen-Âge car les ouvriers exercent deux métiers en même temps. Il y a le temps de la construction et le temps de la pédagogie. Un temps qu'à Guédelon, Florian Rinucci mesure précisément.
Nos moyennes de temps sur l'écarissage d'un bois, donc le fait de transformer un tronc d'arbre, une grume, en pièce de charpente, là, on a des données fiables, éprouvées, et donc on connaît les capacités de production pour tel ou tel type d'ouvrage. Et ça, ce sont des scoops archéologiques. Ces données-là, c'est précisément ce qui manque aux archéologues pour pouvoir comprendre le nombre de personnes qui ont travaillé et le temps qu'ont mis les chantiers de l'époque.
Guédelon a permis à Anne Baud de progresser dans son travail d'universitaire.
On se rend compte que les équipes elles sont beaucoup plus réduites qu'on ne le pense. On se rend compte que le maçon, il a une place essentielle dans le chantier, alors que souvent, on fait l'apologie des charpentiers, des tailleurs de pierre. Maintenant, le maçon, il est essentiel parce qu'il suit le chantier de A à Z. Ah voilà, ça c'est quelque chose de nouveau et c'est pas dénué de sens en fait. Et puis passer plus de temps sur ce qu'on lit et peut-être vérifier en fait ce qu'on lit. Moi je fais des cours, des étudiants là, en licence, en master. Et bien sûr, pour certains cours on s'appuie sur les sources, sur les publications. En fait, quand on se repose les questions, qu'est-ce qu'il a dit ce chercheur? Mais est-ce qu'il est allé le vérifier? Non, il n'est pas allé le vérifier. Donc on répète les mêmes choses, mais on peut aller beaucoup plus loin.
La rigueur qui accompagne la construction offre à Guédelon une reconnaissance et un savoir sur l'époque médiévale. La charpente du château a été construite à l'identique des techniques du XIIIe siècle, comme celle de Notre-Dame de Paris. Lorsque la toiture de la cathédrale est partie en fumée, Marilyn Martin a été consultée.
Ça allait de journalistes en passant par des gens référents au niveau du patrimoine, de la culture, des scientifiques, etc., ou qui nous ont appelés en disant « Écoutez, il faut qu'on se mette ensemble pour... » Voilà, vous écarissez le bois comme au XIIIe siècle, vous travaillez le bois vert, c'est des petites sections alors que les gens pensent que c'est complètement pharaonique de refaire les charpentes de Notre-Dame. Expliquez-leur que c'est possible, expliquez-leur qu'on pourrait former des gens. Il est hors de question que les gars de Guédelon aillent reconstruire Notre-Dame. Par contre, que les gars de Guédelon forment des jeunes charpentiers, parce que des charpentiers compétents et des centres de formation de charpente, il y en a des fabuleux en France, mais que sur ce geste très spécifique d'aborder le bois vert, des bois de petites sections, d'écarrir et de travailler comme ce que la forêt de la charpente Notre-Dame était, nous on est complètement en capacité de transmettre ça.
Plus qu'une curiosité touristique, Guédelon passionne les visiteurs. Ils sont 300 000 chaque année à découvrir le chantier ou à revenir pour suivre l'avancée des travaux, comme Michel, qui revient régulièrement à Guédelon pour se ressourcer.
Ah, le château, il est juste fantastique. Ici, les gens qui œuvrent sur le château est un prétexte, à mon avis, pour justement retrouver ses valeurs traditionnelles, artisanales, et récupérer le temps qu'on nous a pris dans cette société où il faut aller de plus en plus vite et on constate que ça devient de plus en plus douloureux et grave pour la planète, pour les individus. Et je trouve qu'ici on retrouve la valeur des choses et c'est pour ça qu'on est venu ici.
Le chantier de Guédelon emploie aujourd'hui 100 personnes et reçoit des bâtisseurs.
On a toutes les semaines des bâtisseurs, ils participent au chantier sur une semaine et c'est des personnes comme vous et moi qui viennent passer un temps de congé sur le chantier. On leur transmet ces savoir-faire-là, ils travaillent avec nous.
Là on pile certaines pierres comme des hématites.
Sylvie est bénévole. Tous les ans, elle lâche son travail et rejoint les bâtisseurs du chantier. Tantôt guide, tantôt à l'atelier des couleurs. Guédelon, elle ne peut plus s'en passer.
J'ai attrapé la guédelonite après avoir fait un stage bâtisseur. Et ça ne me suffisait plus. Et donc, j'ai pris une dispo sur mon travail. Moi, j'habite en Bretagne et je viens partager 4 mois par an ici pour participer au chantier.
Qu'est-ce que vous trouvez ici? Qu'est-ce que ça vous apporte?
Je reste sans voix parce que ça se ressent, ça se vit. C'est une belle parenthèse, c'est hors du temps, c'est une passion pour le Moyen-Âge depuis toujours. C'est l'occasion de participer à un projet commun, rencontrer des gens.
Donc ça veut dire que vous abandonnez tout, votre vie, mari, enfant, maison, tout, vous venez ici?
Non, j'emmène le mari quand même. Il a attrapé la guédelonite aussi avec moi.
Mais Sylvie n'est pas inquiète, l'aventure doit encore durer plusieurs années.
Le château de Guédelon, authentique château médiéval du XXIe siècle, un grand reportage de Patricia Lecomte, réalisation Pierre Chaffanjon, à retrouver sur RFI.fr. Appelez-nous, exprimez-nous.